normes avaient été créées donc pour être en compagnie. Dès le commencement, l'homme a été créé pour être un être social, un être qui ait des relations avec ses semblables. Et il est important de souligner ici que Adam n'avait pas de problème de relation avec Dieu. Le péché n'était pas encore venu sur la terre et Adam n'avait pas cette difficulté que nous pouvons avoir maintenant de communiquer ou d'avoir avec une relation avec Dieu. Donc, on peut dire que dans le sens horizontal de sa relation avec Dieu, avec son Créateur, il n'y avait pas de souci. Mais il lui manquait quand même quelque chose dans la relation horizontale. Alors, quelle réponse donne Dieu à la solitude de Adam ? Je vais lui faire une aide semblable à lui. Suivant les versions que nous avons, une aide qui lui corresponde, quelqu'un qui lui aille bien, ou bien on traduit ça également par un vis-à-vis, quelqu'un qu'il a en face de lui. Alors, vous pouvez noter ici, dans ce verset, le mot « aide ». On a vu la fois précédente comment Dieu pourvoyait aux besoins de Adam dans le jardin à travers son activité. Ce n'est pas un secret, l'homme, il doit manger pour vivre, il a besoin de s'alimenter. Et il a besoin donc d'une certaine activité. Et Dieu, à travers cela, pourvoit aux besoins de l'homme. L'homme était placé dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Donc la réponse que Dieu donne ici s'inscrit dans ce cadre de l'activité, une aide semblable à lui. Je vais lui faire une aide semblable à lui. On voit que l'initiative également vient de Dieu dans notre texte. C'est Dieu qui prend l'initiative de pourvoir à la solitude de Adam. Ce mot aide, on le retrouve dans ce mot hébreu qu'on va retrouver dans le psaume, beaucoup dans les psaumes. Et là, il va avoir le sens de secours. Une aide, donc, ou un secours qui lui correspond. Donc, ce mot aide a un sens qui est assez fort quand même. Voilà ce qui concerne Adam. On ne va pas aller plus loin dans notre texte. On va s'intéresser maintenant. On va voir une autre fois la suite et la réponse qu'a eu Adam à ce moment-là, la réponse qu'il a eue à sa difficulté, à sa solitude avec la création de Ève. On va laisser ça pour une autre fois. On va s'intéresser au thème de la solitude aujourd'hui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors la solitude est une réalité dans notre société maintenant. Je ne suis pas un expert pour vous parler de cela. Aussi j'ai choisi de vous faire la lecture d'un article que j'ai trouvé sur Wikipédia qui parle de la solitude. Donc j'ai une version anglaise ici parce que je vais faire la lecture, c'est un peu long pour ceux qui préfèrent l'anglais. Voilà, pas que vous ennuyez. Alors, la solitude du solus, seul, latin, est l'état ponctuel ou durable d'un individu qui n'est pas engagé dans aucun rapport avec autrui. La solitude n'est pas la même selon qu'elle est choisie ou bien selon qu'elle est subie. Ainsi, l'état d'isolement ou d'éloignement vis-à-vis d'autrui peut avoir des effets bénéfiques sur l'individu, mais aussi néfastes. La solitude a également été décrite comme une souffrance sociale, un mécanisme psychologique alertant un individu d'un isolement non désiré et le motivant à chercher une connexion sociale. Alors, les causes, c'est l'aspect psychomédical. Donc là, c'est plutôt médecin qui parle. Un individu peut faire l'expérience de la solitude pour plusieurs raisons, à cause de facteurs liés à celle-ci, comme un manque de relations sociales durant l'enfance et l'adolescence, l'absence physique d'autrui. Cependant, la solitude peut être le symptôme d'un autre problème social ou psychologique, comme la dépression chronique. Un bon nombre d'individus font l'expérience de la solitude pour la première fois lorsqu'ils sont bébés, hein, le bébé qui se retrouve tout à coup tout seul, qui se met à pleurer, il est complètement perdu. Il est également fréquent, mais aussi souvent temporaire, que ses conséquences soient liées à une rupture amoureuse, un divorce, la perte d'un proche, plus généralement, la perte importante d'une relation humaine. La perte d'une personne importante dans la vie d'autrui engendre typiquement une réponse psychologique en deuil. Puis dans cette situation, l'individu se sent seul, même lorsqu'il est entouré. La solitude peut également survenir après la naissance d'un enfant, on appelle ça la dépression postpartum, après le mariage, après un événement perturbant, après déménager dans une ville ou l'autre, avoir le mal du pays. La solitude peut survenir dans un ménage instable ou dans d'autres relations similaires durant lesquelles les sentiments de colère, de rancune peuvent être ressentis ou durant lesquels l'amour ne peut pas être donné ni reçu. Ne pas pouvoir donner d'amour, ne pas pouvoir recevoir d'amour. C'est ainsi que le médecin décrit ici la solitude. La solitude peut présenter un dysfonctionnement de la communication, peut également survenir chez un individu habitant dans un endroit où la densité de population faible, être perdu dans la campagne, c'est ce qui nous concerne ici dans nos régions, ou dans lequel il ne peut pas louer de lien. La solitude est perçue comme un dysfonctionnement social et peut s'étendre très rapidement. L'origine de la solitude peut également être liée à des problèmes de comportement, au chômage. Elle est une forte corrélation avec la faible estime de soi, la timidité, la conscience, l'introversion, le manque d'assurance. Toutes ces choses, ces sentiments qui vont nous donner l'impression qu'on est vraiment seul. On est seul. Et ça a des effets. La solitude chronique est une condition menaçante pour la vie d'autrui. Une étude montre que la solitude est liée à un haut risque de cancer, spécialement pour ceux qui cachent leur solitude au monde extérieur. Elle est également un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, de maladies cardiovasculaires. Elle augmente le risque de mortalité de ces maladies. Une solitude importante et sévère peut être une expérience extrêmement douloureuse et peut engendrer des dommages sérieux au niveau psychologique. La solitude est liée à la dépression et est un facteur de risque pour le suicide. Les individus socialement isolés peuvent avoir une quantité de sommeil médiocre, voire faible. La solitude est également liée à un trouble schizoïde, dans lequel un individu fait l'expérience d'une aliénation. Ne me demandez pas de commenter cette phrase. La solitude peut jouer un rôle important dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Chez les enfants, un manque de connexion sociale, d'avoir des vis-à-vis, est directement lié à de nombreux comportements antisociaux, autodestructeurs, et peut notamment conduire à l'hostilité et à la délinquance. Chez les enfants et adultes, la solitude a souvent un impact dans la compréhension et la mémoire. La solitude peut également nuire significativement au sommeil. Alors, notre société moderne semble s'être intensifiée au fil de la modernisation. Dans les sociétés développées, la solitude s'est largement répandue parmi les deux catégories d'individus, les seniors, donc les personnes âgées, et les individus vivant dans une commune à faible densité de population, comme chez nous dans le Lot. Les seniors vivant dans les zones sururbaines sont particulièrement vulnérables. Ils perdent généralement la capacité de conduire, ainsi ils maintiennent difficilement les relations sociales. La solitude est également présente chez les jeunes individus entre 18 et 35 ans. Les causes peuvent être l'arrêt brutal de la scolarité. D'autres facteurs peuvent provoquer une variété de troubles psychologiques qui peuvent inclure des changements de comportement. Il parle après d'Internet. La corrélation existante entre l'usage d'Internet et la solitude est un sujet controversé. Donc, je fais juste un petit résumé. Disons que lorsqu'on a des enfants, les personnes qui ont des enfants sont contentes d'avoir Internet parce qu'ils peuvent dialoguer plus facilement avec eux quand ils sont isolés. Mais les personnes qui n'ont pas de connexion sociale, qui n'ont pas d'amis, ne vont pas pouvoir... en fait, Internet, dans le fait, ne leur sert pas beaucoup. Et ils ont toujours ce sentiment de solitude. Donc, ce n'est pas une réponse. Alors, la prévalence, il existe plusieurs estimations. Le facteur de solitude, 60 millions d'individus aux États-Unis, 20% de la population des États-Unis se sent seule. 12% des Américains n'ont personne avec qui passer le temps libre. Alors, il y a des traitements après. Il existe différentes manières de traiter la solitude, l'isolement social, la dépression clinique. La première étape que recommandent les docteurs est la thérapie. Thérapie est un moyen commun, parfois avec celui de traiter la solitude. Bon, il y a une thérapie court terme, 10, 20 semaines, etc. Donc là, je ne rentre pas dans le détail. Les médecins prescrivent fréquemment des antidépresseurs aux patients en tant que traitement standard ou en conjonction avec la thérapie. Cela prend généralement du temps aux patients avant de trouver l'antidépresseur adéquat. Rien n'est simple, rien n'est facile. Certains patients peuvent développer des résistances aux médicaments, avoir des effets secondaires, des approches alternatives. Et qui sont proposés, ces traitements peuvent inclure l'exercice, la diète, l'hypnose, la simothérapie, l'acupuncture, l'herboristerie, toutes sortes de choses qui sont mises en œuvre pour combattre la solitude. Un autre traitement utilisé pour traiter la solitude est la thérapie animale, plus connue sous le nom de zoothérapie. Certaines études démontrent que la présence d'un animal de compagnie tel que les chiens, les chats, les lapins peuvent diminuer le sentiment de dépression et de solitude pour certains malades. Ça, on le savait déjà. D'après les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies, il existe un bon nombre d'effets bénéfiques à sentir la présence d'un animal. En 2011, le gouvernement français choisit comme grande cause nationale la lutte contre la solitude. À la demande du collectif associatif, pas de solitude dans une France fraternelle. Alors, voilà un petit état des lieux de notre pays, de notre situation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La parole de Dieu décrit des choses, fait des déclarations, et puis elle a de l'autorité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez eu différence entre la solitude choisie, la solitude subie. C'est vrai que de temps en temps, prendre un peu de recul, un peu de tranquillité, ça peut être nécessaire, surtout pour retrouver, avoir une communication, une communion avec Dieu. On a souvent besoin d'être tranquille à ce moment-là, mais il ne faut pas que ça dure, la solitude. Et la solitude subie, celle que l'on ne souhaite pas. Quelle réponse à Dieu, à notre solitude. Quelle réponse? Je vais lui faire une aide semblable à lui. Alors, on a parlé de mot aide. Une première réponse pour nous ce matin, déjà, on le sait, quand on s'ennuie, quand on n'a rien à faire, quand on ne fait rien, on va vite se sentir seul, s'ennuyer. Donc, il y a l'activité, avoir de l'activité, c'est un très bon... Ça va être un très bon remède par rapport à ce problème de solitude, et en tout cas, on est dans le cadre de ce que Dieu a prévu. Une aide ou un secours. L'intervention de Dieu dans nos vies. On va prendre le temps rapidement de lire le psaume 142, où David fait l'expérience, il est dans une caverne et il fait l'expérience de la solitude. Il est poursuivi par Saül d'un côté, et de l'autre il est entouré de personnes qui ne le comprennent pas, qui sont violentes, et lui dans la caverne se sent seul et il soupire après être bien entouré. Psaume 142. Si quelqu'un de faire la lecture du psaume 142. Oui, Alain.
Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. Je crie de ma voix à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte. J'expose ma détresse en sa présence. Car mon esprit est abattu en moi. Toi, tu connais mon sentier. Ils m'ont caché un piège dans le chemin où je marchais. Regarde à ma droite et vois. Personne ne me reconnaît. Tout refuge me manque. Personne n'a souci de mon âme. Éternel, je crie à toi et je dis, tu es ma retraite, mon partage dans la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis fort misérable. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront autour de moi, parce que tu m'auras fait du bien.
Voilà. Retire-moi de ma prison. Les justes viendront autour de moi. On voit David ici qui crie à Dieu. Alors, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Et David n'avait pas de problème de relation avec Dieu à ce moment-là. Il écrit ce beau psaume. Il n'a pas de problème de communion avec Dieu. Comme nous qui sommes enfants de Dieu, on peut avoir une très bonne communion avec Dieu, mais on peut souffrir quand même de solitude. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est l'expérience qu'avait David ici. Il soupirait d'être entouré par des personnes justes, par des personnes qui soient des vis-à-vis pour lui, avec qui il puisse avoir de bons échanges, plutôt que des gens qui le persécutaient ou des gens qui l'incitaient à la violence. Donc c'est déjà une seconde réponse pour nous ce matin. Peut-être faut pas hésiter à porter nos problèmes devant le Seigneur. Faut pas hésiter à le faire. Il a une oreille attentive. Il a une oreille attentive. Et le secours vient de l'Éternel. Quelle réponse a prévu Dieu pour son peuple aujourd'hui? On a l'Église. Vous avez tout pleinement Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul à l'église de Colosse, chapitre 2, verset 10. Il avait déclaré quelque temps avant le Seigneur, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dernier. Alors, vous connaissez l'église, quelle réponse elle présente à ce problème de la solitude? L'église, dans le Nouveau Testament, elle est présentée comme une communauté. C'est ensemble que les chrétiens se rassemblent pour rendre un culte à Dieu, comme nous l'avons fait ce matin. Chanter ensemble, prier ensemble, prendre le repas du Seigneur. Il y a aussi des moments fraternels qui sont plus différents dans leur forme. On appelle ça les agapes. J'ai remarqué que même dans le monde associatif, des gens qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, ils ont repris ce mot agape pour désigner les repas qu'ils font pour être bien ensemble. Et dans les premières églises, l'église primitive, on voit que les chrétiens ils prenaient du temps ensemble, ils faisaient des agapes, des repas d'amour, où ils pouvaient avoir des échanges. Pour prendre le temps de discuter, parce que pendant le culte ici, on n'a pas beaucoup de temps de discuter, on discute un petit peu avant, un petit peu après, mais on n'a vraiment pas l'espace de temps nécessaire pour se connaître. On a vu également qu'il fallait avoir des activités, activités avec l'autre, des activités ensemble. Alors, Dieu a donné une mission à l'Église, vous savez, faire l'évangélisation, aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Et c'est vrai que, on a eu l'occasion de mettre ça en œuvre ces jours-ci, là, avec les répétitions pour faire la fête de la musique, tout ça. On était ensemble, on était bien. Donc il y a les activités, faire des activités ensemble au sein de l'Église. Le Seigneur a pourvu également dans ce cadre-là, qu'il y ait des choses à faire ensemble. Tout ça pour ne pas se sentir seul. Il y a également dans l'Église des mélanges de générations, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, nous on n'a pas de bébé, mais ça pourrait être le cas, peut-être ce sera le cas un jour. En tout cas, le mélange des générations fait qu'on est un petit peu comme dans une famille, et donc Dieu, à travers l'Église, pourvoit à ce besoin d'être dans une famille, d'avoir des plus âgés, des plus anciens, et de pouvoir avoir cette communion dans différents âges. Il a également prévu de mélanges sociaux. Il y a des personnes de toutes les couches de la société, il y a des riches, il y a des pauvres dans l'Église du Seigneur, il y a des personnes qui sont très instruites, il y a des personnes qui le sont moins, et on va avoir des vis-à-vis. Il y a des personnes de cultures différentes qui viennent qui ont une histoire différente, et avec toutes ces personnes-là, nous allons avoir des vis-à-vis, des personnes qui sont différentes de nous et dans lequel on va, avec lesquelles on va pouvoir avoir des échanges. On en parlera une prochaine fois, comment Adam, Ève avait créé, Dieu avait créé Ève pour Adam et comment c'était une personne différente. On en parlera la prochaine fois, mais le vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est différent de nous. Et dans l'Église, on a tout ça qui est là, pour pas que l'on se sente seul. C'est un piètre réconfort que de savoir qu'on n'est pas tout, qu'il y a d'autres personnes qui sont seules, mais c'est bien quand les personnes seules se rassemblent entre elles, à ce moment-là vraiment, elles ne sont plus seules. Alors, où en sommes-nous dans notre Église aujourd'hui? Comment on vit la solitude dans notre Église? Alors, vous savez, on a un frère qui est parti il n'y a pas longtemps, Dagobert, ou la sœur Ghislaine, qui sont partis il n'y a pas longtemps, et elle souffrait de solitude. Ghislaine, c'est pour ça qu'elle était partie, qu'elle est partie. Elle souffrait de la solitude. Donc, ce sont des problèmes qui nous touchent de près. Comment l'Église remplit son rôle, ce serait bien qu'on réfléchisse une fois ensemble là-dessus. Comment on arrive en tant qu'Église à répondre aux besoins de ce problème de solitude, cette grande souffrance qu'est la solitude. Qu'est-ce qu'on met en place pour y répondre concrètement? Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Dans l'Église, on donne et on reçoit. Se retrouver le dimanche ensemble, on est peut-être dans une situation confortable où on a une famille, on a tout ce qu'il nous faut et on ne se sent pas du tout seul, mais si on sèche le rassemblement des chrétiens, l'Église, il y a des personnes qui sont là et qui elles vont se sentir seules. Donc on donne de notre présence, on reçoit également. Donc, venir à l'Église, ça contribue aussi à venir entourer les personnes qui sont seules dans la vie de tous les jours, en dehors de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est également des petits groupes qui se forment de ci, de là, dans la semaine, à droite ou à gauche. On est tous éloignés, distants les uns des autres, et c'est bien que de savoir qu'il y a des chrétiens qui se réunissent dans la semaine, localement, ils passent un moment ensemble, ils ne sont pas seuls. Ça aussi, c'est une réponse que peut apporter l'Église. Alors, donner, recevoir, je mets ça devant chacun d'entre nous. Quelle réponse j'ai pour moi, pour mes frères et mes sœurs qui sont seuls? Est-ce que j'arrive à découvrir les personnes qui sont seules? Parce que si on ne prend pas le temps d'avoir des échanges, de parler les uns avec les autres, on ne va même pas s'apercevoir qu'une personne est seule. On pense qu'elle est dans le même cas que moi. Elle rentre chez elle, elle a toutes sortes de choses, d'activités, et elle n'a pas le temps du tout de s'ennuyer. Elle ne ressent pas ce sentiment de solitude, or ça peut être le cas. Et donc il faut passer le temps, venir chaque fois qu'il y a des occasions tous ensemble, ne pas le négliger, ça aussi, que de venir quand il y a un repas fraternel, etc., une fois par mois, ben de faire l'effort d'être là. Si on ne se sent pas seul, il y a d'autres qui peuvent se sentir seuls et qui sont contents de pouvoir rencontrer des frères et sœurs à ce moment-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un vis-à-vis. Je lui ferai une aide, un vis-à-vis. Donc, il y avait le cas de Ève pour Adam. Il y a le cas aussi également de l'Église que Dieu a voulu, que Dieu a fait, que Dieu a mis en place aussi pour répondre à ce besoin de solitude. Alors, je vais prier maintenant. Et après, on va chanter un chant qui parle de la communion avec Dieu. On a un chant qui dit « Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. » En chantant ce chant, on va pouvoir se souvenir qu'en tant que chrétien, on a le privilège d'avoir notre Père Céleste qui fait qu'on ne se sent vraiment jamais, même si on est seul, on n'est vraiment pas jamais tout seul. On peut se souvenir de ce chant par rapport aux personnes qui n'ont pas cette relation avec Dieu et qui sont vraiment, vraiment, vraiment seuls. 75. Et on peut se souvenir également des personnes, la personne qui a écrit ce chant qui devait à ce moment-là se sentir aussi seule, sans frères et sœurs autour d'elle. Je vous laisse chercher le chant et puis on va prier, quand vous l'avez trouvé. Notre Père Céleste, tu nous places devant ton grand défi ce matin. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Et Seigneur, tu vois l'état des lieux par rapport à la solitude. On dit que la solitude va en augmentant dans notre pays. On n'est jamais autant de facilité pour communiquer, pour se déplacer. Et le sentiment de solitude va grandissant. Peut-être c'est parce qu'on pense que mon voisin n'a pas de problème. On n'a pas assez le cœur sensible à la solitude des autres. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu nous ouvres notre cœur sur la réalité de la solitude. Que tu nous fasses prendre conscience de cela dans notre Église premièrement. Et Seigneur... Merci également pour les ressources que tu donnes, d'avoir de l'activité, ce secours que nous pouvons trouver auprès de toi, de pouvoir crier à toi notre mal-être en tant que personne seule. Merci également pour l'Église, merci parce que tu as pourvu en elle. Et Seigneur, je te prie que nous puissions avoir une plus grande conscience du rôle social de l'Église, là, un rôle unique. Et Seigneur, merci de nous en faire prendre conscience tout à nouveau de cette responsabilité que d'entretenir une Église vivante et proche de tous ceux qui souffrent. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait déjà. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es un Dieu qui pourvoit, mais nous voulons tourner nos yeux vers toi ce matin. Te demander, Seigneur, de pourvoir dans ces vis-à-vis dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus. Amen.